petite enquête patrimoniale, présentée par Martine Balou.
Bonjour, donc je suis ravie d'être sur cette radio pour une première chronique qui va toucher aussi un autre public dans le cadre de mes activités à la mairie de Périgueux au service du patrimoine. Et cette première chronique, eh bien, j'avais envie d'évoquer une période que j'aime particulièrement et vous verrez qui va assez bien avec la musique que j'ai choisie pour vous parler sérieusement, mais pas du tout se prendre au sérieux. Et cette période de temps dans la vie de Périgueux, c'est le Second Empire. Ah, le Second Empire. Mais le Second Empire, allez, on fait une petite révision historique, vous le savez tous, mais quand même, on va déterminer des dates. On va se dire 1852-1870. Eh bien, dans cette période-là, à Périgueux, c'est vraiment des grands bouleversements. C'est le souffle, on va dire, et l'effervescence du Second Empire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que les grandes transformations de Périgueux vont s'inscrire dans cette période qui se trouve être celle du temps de Napoléon III, dans un grand mouvement urbanistique, économique, démographique et social. D'abord, c'est l'apparition du chemin de fer qui va être vraiment la clé de voûte. C'est très important car le Second Empire fait de Périgueux une des grandes gares d'embranchement du réseau du Paris-Orléans. Et oui, on l'oublie parfois, mais le premier train, il n'y avait pas encore de gare d'ailleurs, c'est le Périgueux-Coutras qui est inauguré le 20 juillet 1857 par Pierre Magne, natif de Périgueux, ministre des Finances et des Travaux Publics. Alors, Pierre Magne, on en reparlera peut-être une autre fois, mais on va quand même le situer. Pierre Magne, car c'est une vraie leçon de vie. C'est un enfant du pays qui s'est accroché et qui a bien travaillé, on va dire, à nos jeunes étudiants, mais surtout qui avait cette grande volonté et qui aurait pu poursuivre le métier de ses parents, c'est-à-dire teinturier. Et il a voulu bien finalement aller encore plus loin et il va en profiter pour servir la cause de son pays, mais aussi ne jamais oublier sa ville. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, c'est grâce à Pierre Magne eh bien, que ce développement pendant cette période du Second Empire va se réaliser. Et en particulier, il va convaincre les élus de l'époque d'installer vraiment un réseau, de s'inscrire dans un réseau de voies ferrées qui va permettre de relier notre ville de province à Paris. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que Périgueux va être qualifié de Petit Paris. La mode, eh bien, va nous arriver de Paris. Tout le monde va copier Paris, et même dans les constructions. Mais avant, on va revenir à cette inauguration qui quand même a été très importante, je rappelle, le 20 juillet 1857. La gare n'était toujours pas construite. La compagnie du PO, c'est-à-dire du Paris-Orléans, avait mis à disposition une espèce de baraquement avant que les premiers coups de pioche en 1860 se réalisent, donc un peu plus tard, pour abriter la gare que nous avons aujourd'hui, même avec les transformations. Il faut vous dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits, car cette gare, on ne le voulait pas du tout à cet emplacement. À l'époque, le maire de Périgueux s'appelait Estignard et il voulait installer la gare là où se trouvait, il n'y a encore pas si longtemps, sur la place Francheville, la gare routière. C'était soit cette solution ou alors c'était près du château Barrière. Mais vous imaginez ce qui serait passé si on avait construit la gare à l'emplacement de la place Francheville ou du château Barrière, au niveau pour le château Barrière, évidemment, de tous les vestiges gallo-romains. Et puis, plus tard, les ateliers donc, qui s'installent n'auraient jamais pu voir le jour. Donc c'est vraiment merci Pierre Magne d'avoir convaincu le maire qui n'était pas très favorable. Mais la Compagnie d'Orléans, évidemment, a beaucoup aidé financièrement et a gagné. Et on s'est installé à cet emplacement que vous connaissez bien aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a eu une grande fête lors de cette inauguration. L'empereur devait venir, mais il va déléguer son ministre bien favori. On le verra tout à l'heure, car Pierre Magne était très aimé de Napoléon III. Il va d'ailleurs, Pierre Magne, prononcer un discours à la gloire de l'empereur lors d'un banquet servi, figurez-vous. Non, pas dans un grand restaurant, pourtant il y en avait beaucoup à l'époque, mais lors d'un banquet servi au palais de justice, devant un parterre de notables de 150 convives, démontrant que Napoléon III aussi n'avait pas voulu déshériter la Dordogne et voulait rendre la capitale du Périgord très importante et reliée à la capitale nationale. Et il y a eu même en soirée un feu d'artifice. On aimait énormément les fêtes à cette époque. Des processions flambeaux. C'était vraiment une fête extraordinaire. Le 20 juillet ressemblait presque, sauf évidemment les gloires nationales, mais à un 14 juillet, une grande, grande fête. Et bien entendu, on se promit qu'il fallait ne pas en rester là et avoir une gare digne de ce nom. Donc, la construction de la gare, eh bien, va s'en suivre. Les premiers coups de pioche sont donnés le 12 septembre 1860. Alors, quels sont les plans? Qui a fait les plans? Connaissons-nous cette personne? Eh bien oui, c'est un architecte de Poitiers, l'architecte Monsieur Lévy et l'ingénieur Caravan qui va imaginer les plans de cette gare qui finalement ne diffère pas de l'architecture des autres gares principales du réseau. Puisqu'il y a quand même des plans très organisés, très typiques. Et à partir de ce moment-là, évidemment, Périgueux est très fier et surtout devient le centre névralgique de rencontre de toutes les populations. Un nouveau quartier est né. Bien sûr, Périgueux est relié aux autres villes, est relié à Paris, bien sûr, est relié aussi aux villes d'eau, car on commence à aller vers les bains de mer. Napoléon III, Eugénie, Biarritz, il y a même des trains qui sont affrétés à cet effet-là. Mais en plus, un nouveau quartier est né, le quartier de Saint-Martin-la-Gare. Saint-Martin-la-Gare ou la gare de Saint-Martin. Très importante, brassement de population, et puis, en même temps, les ateliers de la Compagnie d'Orléans vont s'installer en 1862 dans la plaine du Toulon. Merci encore Pierre Magne qui va convaincre la municipalité de toujours aller plus loin et toujours être un peu précurseur dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que déjà, les trains stationnent en gare sous une halle couverte, qui est quand même l'une des plus larges du réseau et qui possède une grande hardiesse. Et en plus, les ateliers de la Compagnie d'Orléans, donc, vont permettre un prolongement de ce quartier de Saint-Martin, la gare, ce nouveau quartier, et le Toulon, le quartier du Toulon, va naître. Très important pour la ville de Périgueux. Car Périgueux entre, en fait, dans l'ère de l'industrialisation et devient surtout un grand centre de travail manufacturier. L'aventure ferroviaire, entraîne le département et Périgueux dans un bouleversement sans précédent. Elle va favoriser les relations commerciales et les échanges de produits agricoles et manufacturés. Et voilà que la plaine marécageuse du Toulon va être nommée le Far West. Eh oui, c'est la conquête vers l'ouest de cette grande plaine où vont se dresser les grands ateliers de la Compagnie d'Orléans. Et cette conquête vers l'ouest est à l'origine de nouveaux paysages qui vont se transformer rapidement et qui vont engendrer une ville nouvelle. Périgueux, petit à petit, prend place et occupe tout ce grand espace qui va pratiquement jusqu'au Gourde-l'Arche. Alors, évidemment, on parle beaucoup de la vie sociopolitique qui est toujours marquée au sceau de notre ami Pierre Magne. Ce petit garçon né dans les Barry, mon Dieu, devenu ministre, ne va jamais oublier, nous l'avons déjà dit, sa ville, mais il faut le répéter, car il va y avoir de nombreux autres travaux d'utilité publique, comme on les appelle, qui sont effectués, aussi sous l'impulsion quand même d'un des maires les plus actifs de l'époque dans la ville, et j'ai nommé le docteur Alfred Bardi de Lille, qui est en fonction du 14 juillet 1855 au 12 janvier 1870. Alors, j'aime bien l'évoquer parce que, d'abord, sa demeure, on peut aujourd'hui l'admirer. Il va habiter ce très bel hôtel particulier en face de la cathédrale, dans la descente vers l'ancien quartier des Rues Neuves, à côté d'une auto-école aujourd'hui, près de la place de la Clôtre. Présente une très très belle terrasse et d'ailleurs au passage je remercie son propriétaire qui nous a ouvert deux fois les lieux pour s'approprier pendant quelques instants l'atmosphère de cette demeure qui va abriter ce maire très très dans la hardiesse et très aussi passionné pour l'histoire de sa ville. Et en même temps, c'est assez amusant car ses parents ont une belle histoire. Son père est célèbre pour ses talents d'avocat. Donc déjà, il s'exprime très bien. Il a hérité ça de son père. Et sa mère, là je vais vous faire un peu rêver, est l'amie d'enfance de la grande duchesse de Bade. J'ai nommé, évidemment, Stéphanie de Beauharnais. Et on sait, d'après des documents, que cette Stéphanie de Beauharnais va apprendre les bonnes manières sur l'ordre de Napoléon Bonaparte, ou les avait appris, plutôt, au petit château de Trélissac, qui est la propriété de Pierre Magne. Le petit château de Trélissac, il y a le petit et le grand château, car Pierre Magne nous a laissé toute une histoire. On peut le retrouver sur ses traces à Périgueux jusqu'à Trélissac, avec le grand château qui aujourd'hui est une belle résidence avec des appartements. Mais il y a aussi le petit château, un petit peu là sur le côté, dans l'immense parc, et dont il ne reste aujourd'hui qu'une chapelle très, très émouvante, et que l'on a eu l'occasion aussi, grâce à son propriétaire, de découvrir. Eh bien, Pierre Magne, c'est aussi une saga et c'est aussi l'homme du Second Empire, puisque, vous voyez, il va nous conduire du pont des Barry jusqu'à Trélissac dans ses demeures. Mais notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas Pierre Magne, c'est le Second Empire. Il y est tellement, je dirais lié, qu'on ne peut s'empêcher et avoir envie par moments de développer. Alors, comment était Périgueux à cette époque-là? Eh bien, Périgueux voit d'abord naître une société nouvelle, je vais dire, et puis les loisirs, les divertissements, tout ce que l'on aime dans cette ville aujourd'hui qui retrouve sa vivacité après ces moments un petit peu troublés, eh bien voilà, c'est le Second Empire. Ça veut dire quoi les divertissements et les loisirs? Ça veut dire la création de cafés chantants, de clubs aussi, oui, on les appelle les clubs. Cela va bouleverser les mœurs et assurer un grand rayonnement intellectuel propre à chacun et permettant surtout d'affirmer, d'afficher sa position sociale et de cultiver ce qu'on aimait beaucoup, un certain art, l'art du paraître. C'était peut-être pas le meilleur, mais enfin, c'était un art qui était très en vogue. Et alors, c'est le Grand Orient. J'ai nommé le nom d'un café, le Café Concert, près de l'ancien jardin public, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui au parc Aristide Briand, à l'angle du cours Fénelon et de la rue du Lycée, qui est la rue Charles-Mangold. Ces grands cafés sont en vogue, voilà. Si les étudiants nous écoutent, pourrait se dire, pourraient peut-être retrouver des grands cafés de ce côté-là, ça nous ferait du bien. Et puis, le jardin d'été. Hein, jardin d'été, c'est le premier casino-concert derrière le théâtre qui est détruit. Le théâtre, en 1957, le beau théâtre de Catoire, aujourd'hui correspondant à la place André-Mauroy, et proche du grand café de la Comédie, où il y a une grande banque aujourd'hui, ce café de la Comédie, on imagine, dans cette forme de place André-Mauroy et en même temps place du Général de Gaulle, elles se côtoient toutes les deux quant à leur nom, dans cette forme en demi-cercle. Là, c'était les aménagements paysagers du Premier Empire, notre grand architecte Catoire. Mais rêvons avec nos cafés et leurs noms magiques. Le Jardin de Paris. Il fallait bien qu'on fasse un lien avec Paris quand même, puisque on copiait Paris, la mode de Paris, les dames s'habillaient comme à Paris et on écoutait la musique de Paris, le Jardin de Paris. Où était ce Jardin de Paris? Eh bien, ce Jardin de Paris, tous les périgourdins vont le reconnaître, parce qu'il va se transformer en casino de Paris, à l'angle du Palais de Justice. Et sur les Boulus, on va dire plus tard, le Cazin, qui avait son petit jardin, effectivement. Aujourd'hui, il a changé de nom, mais c'est toujours un très beau café. Et il va y avoir la concurrence. Eh oui, que de cafés, que de grands établissements. Et d'autres vont naître dans des quartiers où que l'on ne soupçonnerait pas aujourd'hui d'avoir eu des aussi grands cafés. Je nomme le quartier de la Nouvelle Halle. Alors où il est ce quartier-là? C'est place Louis-Maille, où sera construit de grandes halles qui disparaîtra finalement à une époque assez contemporaine. On construit, on détruit et on est là dans ce quartier très important au Second Empire, ce quartier près de la place Louis-Maille aujourd'hui, car il y a la banque, la succursale de la Banque de France. Merci Napoléon III encore. Donc il fallait bien aussi qu'il y ait dans cette grande vie de ce nouveau quartier qui s'organisait un grand établissement. Et vous savez comment il se nommait? L'Alcazar. Il est ouvert en 1863. Et alors? Il connaît un développement si fabuleux que les périgourdins s'y pressent pour s'y encanailler. Ce sont les termes que l'on emploie. Eh oui, la jeunesse s'encanaille, raconte les, ou plutôt nous donne à lire les journaux de l'époque. Alors, évidemment, le lieu devient vite trop étroit. Et le propriétaire, un monsieur Fougerolles, décide d'agrandir son cabaret et va le transférer à proximité, tout près, dans un nouvel immeuble à l'angle de la rue du président Wilson. Autrefois, si vous cherchez sur les plans, vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte, c'était la rue Saint-Martin et la rue Antoine Gâteau. Et il va accueillir de folles soirées. En 1905, il va céder sa place à un carrossier, puis à un garagiste, vous le connaissez, le garage Pradier, et le propriétaire ouvre alors, figurez-vous, quand même, un autre Alcazar à Paris. Je dois dire que c'est presque Périgueux, non ? Qui va influencer Paris, ou Paris qui influence Périgueux. Mais bon, soyons un petit peu dans la vanité. On va dire que nous y avions pensé aussi, et c'est très bien. Alors, va s'en suivre une vie trépidante et riche en divertissements. Caractérisée par des corridas, par des courses de chevaux et des expositions. Bah oui, j'ai bien dit des corridas, figurez-vous. Un événement sans précédent qui est annoncé mi-mai 1866. Quatre courses de toros à l'espagnol. Toros, écrit dans la presse de l'époque, T-O-R-O-S. Et tout cela doit avoir lieu sur la place publique de Périgueux. Il ne s'agit pas de simples courses de vachettes, attention, non, mais de véritables corridas avec six beaux taureaux, dit-on, de Madrid et de Séville, figurez-vous. Alors là, Périgueux n'est pas en reste et a voulu vraiment s'affirmer en grande ville de divertissement et puis surtout être vraiment à la pointe, parce que du progrès, jamais cela ne s'était encore fait. Comment pouvait-on imaginer des courses, ces corridas, dans cette petite ville quand même de province ? De l'aide, où on va trouver les financements ? C'est encore la Compagnie d'Orléans qui va aider. Et qui va aider en allant chercher le public. Et oui, c'est toujours le problème. On dit toujours, il nous faut du public si on organise des manifestations. Eh bien voilà, la Compagnie d'Orléans va, pour la circonstance, figurez-vous, eh bien organiser des trains spéciaux qui vont transporter le public de tous les coins de la région. Non mais c'est incroyable. Avec une réduction de 40% sur le prix des voyages qu'elle va consentir. Mais c'est juste aujourd'hui, on pourrait dire, dans une grande modernité. Ça a peut-être donné des idées, finalement. Le 10 mai, les bêtes arrivent en gare de Périgueux. L'ardeur et la fougue de ces terribles animaux assurent à ces courses un succès éclatant, bien entendu. Le transport depuis l'Espagne s'est effectué dans de solides cages de fer. Bon, ça, on imagine. Et chacun, on imagine aussi, se presse sur le chemin de la gare pour éprouver le petit frisson de la peur en les apercevant. Alors, les pères de famille, les mères un peu affolées, mais quand même, qui veulent bien que les hommes amènent leurs enfants, mais des grands frissons. Mais on les aime, ces grands frissons, c'est ce qui nous donne ce petit plus de la vie qui est quelquefois un peu trop tranquille dans ces villes de province. Et là, le dimanche 13 mai, plus une place n'est libre. La corrida est donc donnée à guichet fermé. Et la foule, en provenance de Bordeaux, de Limoges, de Brive et d'Agen, risque de ne plus pouvoir assister à cette grande manifestation. Ça veut dire que notre ville de préfecture avait quand même attiré bien un rayonnement touristique. On avait trouvé finalement là des idées comment attirer aussi d'autres populations. Et ça, c'est très, très important. Mais voilà, c'est comme aujourd'hui. La météo, pas aujourd'hui, où il y a un grand soleil, mais la météo en général. et le ciel n'est pas de la partie. Un orage. Mon Dieu, quelle tristesse. Il va falloir rembourser les 25 000 francs de la recette et la corrida va être reportée. Ce sera une autre histoire. Un jour, je vous raconterai une grande corrida. Alors, la corrida n'a pas lieu, mais on va organiser tout de même dans les jours qui vont suivre des rencontres équestres parce qu'elles sont très affectionnées par les habitants. Il faut savoir que nous avions un nouvel hippodrome qui avait été construit dans ce Second Empire et le 2 septembre 1853 se tient la première course. Le succès est considérable. Cet hippodrome, tout près d'ici, donc vers les Isards, que vous devez bien connaître en tant que lieu, bien sûr, de rencontre. Toute la population s'y donne rendez-vous. Eh bien encore, on fait appel à la compagnie de chemin de fer qui va établir des trains supplémentaires. Et puis on ne va pas reculer devant ce beau plaisir et un bal va clôturer la soirée. Il n'y a pas quand même que le domaine sportif qui est mis à l'honneur. On associe, comme aujourd'hui, le sport et la culture, puisque le domaine de l'art est mis en lumière et une grande exposition des beaux-arts va s'ouvrir sur les allées de Tourny, toujours dans notre Second Empire. On reste dans notre période, en mai 1864, avec une profusion éclatante quand même de 375 œuvres modernes et 4000 anciennes recueillies dans les collections privées du département. Et tout cela est présenté pour une première fois au public. On est vraiment très moderne. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on est en train de retrouver dans notre vie. C'est tout à fait important, puisque le musée d'art et d'archéologie n'est pas encore construit. Ce sera une autre époque, un peu plus tard. Mais déjà, on utilise nos belles allées de Tourny, notre maille qui donnait sur le belvédéré, avec ses banquettes de pierre, qui sont toujours là, où vous pouvez toujours prendre place et avoir le magnifique paysage. C'était la promenade des Périgourdins qui l'utilisaient beaucoup dans ce Second Empire pour, vous vous souvenez, l'art de paraître, les belles toilettes, avec au bras des beaux messieurs, avec des canotiers, et on allait écouter la musique de ce fabuleux kiosque qui a été remis aujourd'hui en activité grâce à des jeunes dans le travail de l'art de la main, du CFA, du bâtiment. Et ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser rêver sur ces allées de Tourny. Imaginez dans le tourbillon de la musique et dans le tourbillon des froufrous et des crinolines devant l'hôtel de la préfecture. Affaire à suivre.
C'était Martine Balou,
directrice du patrimoine, service ville d'art et d'histoire, ville de Périgueux.